On est ce qu'on mange, mais on est aussi ce que l'animal a mangé. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans toutes les recommandations nutritionnelles, souvent, on demande aux consommateurs de changer d'alimentation, d'être le seul responsable de ses choix alimentaires.
En toute transparence.
Pour le coup, il y a peut-être un binôme producteur-consommateur qui est vertueux. On n'est peut-être pas obligé de drastiquement modifier son alimentation. On peut aussi compter sur l'agriculteur et l'éleveur. Et je trouve qu'on reconnecte agriculture et société.
Le podcast En toute transparence a été imaginé en partenariat avec l'ADEME.
Bonjour à tous, je suis David Garbous, fondateur du cabinet de conseil Transformation Positive. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En toute transparence, le podcast qui raconte le succès des entreprises qui intègrent la RSE au cœur de leur offre. Dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes, sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable, en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donnent les clés pour réussir. Et pour la saison 3 de ce podcast, j'ai toujours avec moi en studio, ici chez Acast aujourd'hui, des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ce discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Kerouas, directrice de l'association Bleu Blanc Cœur, une jeune pousse de 24 ans, engagée dans l'économie sociale et solidaire, qui a posé les jalons d'une alimentation qui combine le plaisir, la santé du sol et la qualité nutritionnelle des aliments, tout en préservant les revenus des agriculteurs, un sujet qui résonne particulièrement dans l'actualité du moment. Bonjour, chère Nathalie.
Bonjour, David.
Alors, très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ton profil LinkedIn, tu nous dis que tu es engagé pour une alimentation soucieuse de la santé, de la terre, des animaux et des hommes. Est-ce que c'est ça finalement le projet Bleu Blanc Cœur ?
Exactement, c'est vrai que je ne renie pas cette signature. Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche qui se veut holistique et qui part de la terre dans un objectif d'améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation. Et effectivement, notre vision, elle est tout sauf en silo. On pense que voilà, avoir une approche holistique de l'alimentation, ça part du sol. On doit travailler les conditions agronomiques, la santé du sol pour améliorer la santé de la plante et in fine améliorer la santé de l'animal et la composition nutritionnelle de notre alimentation. On est vraiment dans une démarche de rééquilibrage où on va chercher à travailler sur le menu plutôt que sur l'aliment ou le nutriment. On a cette approche voilà, vraiment, vraiment globale et transversale.
En partant du sol et en allant jusqu'à l'assiette. Alors, peut-être un tout petit mot avant de commencer à détailler ce que propose Bleu Blanc Cœur. Toi, tu es dans l'association depuis un petit moment. Comment est-ce que t'en es venu à t'intéresser à ce sujet-là? Tu as fait une formation, je crois, d'ingénieur agro. Tu aurais pu faire un parcours bien classique avec d'autres opportunités. Qu'est-ce qui a fait que ce sujet a éveillé ton intérêt et comment tu es arrivé là et comment tu as eu envie de continuer l'aventure?
Merci pour la question. C'est finalement un petit alignement de planètes. J'ai fait des études d'ingénieur en agriculture avec un parcours ou une formation très technique où on approchait vraiment la performance, la rentabilité, les rendements. Et je pense que j'ai vraiment été formé comme ça.
D'accord.
Et je me suis retrouvé en mémoire de fin d'études dans une entreprise où j'avais un sujet marketing. Sujet marketing, pas sur l'alimentaire, mais sur l'alimentation du veau dans les élevages laitiers. Et de façon très surprenante, quand vous travaillez sur ce sujet-là, vous parlez plus à la femme de l'exploitant que l'agriculteur. Et pour le coup, il y a une vraie dimension communication, marketing, la volonté de bien nourrir le veau. Enfin, le veau, c'est l'avenir de la vache. Donc, il y a une vraie dimension appropriation du sujet, de la bonne nourriture pour en faire une bonne vache derrière. Donc, il y a de la technique, mais aussi une dimension, plus émotionnelle, marketing qu'il fallait travailler.
Et
j'ai trouvé ça intéressant en me disant finalement on peut avoir les réponses techniques ou un problème technique, on peut avoir une réponse technique, mais si on ne sait pas mettre en marché, valoriser le produit, trouver les bons arguments pour convaincre finalement l'utilisateur final, ça ne fait pas sens. Et du coup, j'ai voulu compléter mes études par une formation d'ESS de marketing, à l'époque ça s'appelait DESS, donc à l'Institut de gestion de Rennes. Et là, j'ai rencontré des personnes spécialisées du marketing, j'ai eu des formations avec des professeurs en marketing et puis effectivement j'ai rencontré des étudiants qui avaient un parcours très différent du mien Et j'ai trouvé ça passionnant, en fin de compte, de me dire à la fois la dimension formation technique peut s'accompagner d'un savoir-faire à valoriser le travail qu'on fait en technique. Et c'est comme ça que, Alignement de Planète, j'ai trouvé une offre d'emploi qui était celle de la création de l'association Bleu Blanc Cœur. Chercher le premier salarié pour l'association Bleu Blanc Cœur. Je me suis dit, mais je vais peut-être pouvoir postuler pour faire mon mémoire de fin d'études. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Bleu Blanc Cœur.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement... Moi, je rencontre souvent des entreprises qui font un travail de fond assez sérieux et assez robuste, mais qui ont souvent de la peine à le raconter, à le porter auprès de leur public. Et il y a une frustration dans l'entreprise parce qu'on a l'impression qu'on a quelque part fait le travail ou qu'on a de l'or dans les mains, mais que ça produit pas autant qu'on veut. Parfois même, on se décourage en disant finalement les consommateurs sont pas prêts. Et souvent, c'est parce qu'on prend pas le temps ou l'énergie pour effectivement faire la pédagogie du projet. Et c'est ce qui nous a plu effectivement dans le projet Bleu Blanc Cœur. On va en parler en détail maintenant. Et si tu veux bien, je te propose qu'on revienne sur le début de l'histoire Bleu Blanc Cœur. Comment ça commence? Dans mon souvenir, c'est la graine de lin. Le début de l'histoire, est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu plus en détail?
Alors, l'histoire de Bleu Blanc Cœur, c'est une histoire de rencontre également. Donc, la graine de lin, c'est un peu l'emblème de la démarche Bleu Blanc Cœur, mais à l'origine, c'était même plus l'herbe, en fait, qui était le modèle de départ de la démarche.
D'accord.
À l'origine du projet Bleu Blanc Cœur, c'est un éleveur qui faisait de la transformation à la ferme, qui fabriquait du beurre et qui comprenait pas ou qui arrivait pas à expliquer pourquoi son beurre au printemps était jaune, tendre, tartinable, et que l'hiver, il était blanc et dur comme la bougie. Donc, il s'est interrogé sur l'alimentation de ses vaches, qui est différente, effectivement. Au printemps, les vaches vont à l'herbe, et l'hiver, elles sont à l'étable et reçoivent une alimentation conservée, donc à base d'ensilage de maïs et de soja. Enfin, c'était son cas à l'époque.
D'accord.
Et du coup, il a voulu comprendre. Il a interrogé son technicien de nutrition animale en disant, explique-moi pourquoi je ne fais pas le même beurre toute l'année. J'aimerais bien avoir ce beurre de printemps toute l'année. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder la composition de l'alimentation des vaches, qu'on a analysé l'herbe et qu'on a vu que dans l'herbe de printemps, qui est jeune et en croissance, on a beaucoup de matières grasses et dans cette matière grasse principalement des oméga 3, qui sont des graisses essentielles et indispensables, et que l'hiver, le régime hivernal des vaches, quand elles sont à l'étable avec de l'ensilage de maïs et un complément de soja, on n'avait plus du tout d'oméga 3 et à contrario, on avait beaucoup d'oméga 6. Et donc, on a mis en place des essais en se disant, est-ce qu'on peut trouver des sources d'oméga 3 pour complémenter l'alimentation hivernale, parce que l'herbe en croissance en hiver, on n'en a plus. Et les oméga 3, le nom chimique des oméga 3, c'est l'acide alpha-linolénique dans lequel il y a lin. Et donc, assez naïvement, on a été regarder la composition de la graine de lin, qui était une graine riche en matière grasse, 40% de matière grasse et 50 à 60% d'oméga 3.
C'est une filière qui a été florissante en France, le lin, pendant plusieurs années, notamment pour le textile, et puis qui a été petit à petit abandonné. Dans quel état vous retrouvez la filière au moment où vous vous intéressez à la graine de lin? Elle en est où et qu'est-ce que vous allez en faire?
Alors, c'est vrai qu'au moment où on a relancé cette filière-là, il n'y avait plus du tout... Alors, il y a du lin textile et du lin oléagineux. Et du lin oléagineux, il n'y en a quasiment plus, parce qu'avec la modernisation de l'agriculture et puis le besoin de produire plus, on a un petit peu réduit la variété et la diversité végétale dans l'auge des animaux. Et donc, le lin, c'est une de ces cultures qui a disparu aussi en France, sur le territoire français, avec d'autres cultures, vraiment beaucoup de diversité qui ont disparu au moment de la modernisation de l'agriculture.
Ça, c'est les années 60, 70.
C'est les années 50, 60, 70, effectivement, où on a voulu massifier la production, puis on a perdu cette diversité végétale, diversité dans les champs et diversité dans l'auge des animaux. Et d'accord. Ça a créé ces petits soucis de carence nutritionnelle qui est le projet sur lequel Bleu Blanc Cœur s'est construit, de remettre de la diversité, de l'équilibre dans l'auge des animaux, mais aussi dans les champs.
Et donc, de la graine de lin, après, vous avez réussi à démontrer qu'il y avait un impact en introduisant cette graine sur la qualité nutritionnelle des produits et derrière sur la qualité de l'alimentation des humains qui mangeaient ces produits.
Oui.
Vous avez remonté la filière par étapes. Comment ça s'est passé?
Alors, du coup, cette démarche Bleu Blanc Cœur, c'est de valoriser toutes les sources végétales riches en oméga 3. Donc l'herbe d'abord, les fourrages type foin, séché en grange, la luzerne. Et puis quand ces matières premières sont plus disponibles dans les champs, l'idée c'est d'apporter des compléments type graines de lin. Il peut y avoir du colza également. Donc c'est ces végétaux qui sont intéressants dans la filière Bleu Blanc Cœur. Et l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, on a mesuré que la qualité du beurre pouvait s'améliorer quand on remettait de la graine de lin l'hiver. On améliorait aussi les performances et la santé au niveau de la vache. Et c'est là qu'on s'est dit, mais si c'est vertueux pour le sol, c'est vertueux pour la santé des animaux, est-ce que ça peut pas être vertueux pour la santé des hommes?
D'accord, c'est arrivé en troisième
étape. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré un médecin nutritionniste qui était médecin hospitalier à Lorient et qui, a été séduit par l'histoire et le projet et s'est dit, mais moi, ça m'intéresse ce que vous êtes en train de mettre en place parce que je passe mon temps à soigner des Bretons qui aiment bien mettre du beurre sous les rillettes, pour lesquels il est impensable de changer les habitudes alimentaires. Et là, pour le coup, vous êtes en train de faire le régime à la vache, à la poule, au cochon, pour améliorer, dans une logique de prévention passive, la santé de l'homme. Et donc, c'est comme ça que s'est créée cette première étude clinique. Il s'est dit, on va le prouver, on va le démontrer. On mène un projet d'étude clinique et on va voir si effectivement les gens qui consomment ces produits issus de filières qu'on appelle aujourd'hui bleu blanc cœur ont un intérêt en termes de santé.
Et alors, question de marketing pour le coup, ce nom bleu blanc cœur, d'où est-ce qu'il vient? Pour la petite histoire, on se connaît avec Nathalie depuis longtemps. Moi, j'ai travaillé chez Le Sueur et on avait monté un projet ensemble, puis après chez Fleur et Michon aussi. Et on avait travaillé notamment sur ce nom. Chelou, objectivement, bleu blanc cœur, on se dit c'est bleu blanc rouge, on se dit c'est cardiovasculaire. On a eu beaucoup de discussions, tu vas nous raconter l'histoire, mais c'est un petit clin d'œil que je fais aux directions marketing qui nous écoutent. Et vous avez su garder ce cap-là, parce que la question à un moment donné s'est posée de changer de nom. C'est pas grave d'avoir un nom pourri, je dis pas que bleu blanc cœur est pourri, hein, mais parfois un nom difficile à porter. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte, encore une fois. Je prends souvent cet exemple de Horgarden, qui a un nom totalement imprononçable, ils en ont fait un vrai bénéfice pour une bière. Et vous, il y a une histoire originale que vous avez voulu conserver avec bleu blanc cœur, et puis vous l'avez porté un peu contre vents et marées pour tenir la marque, et je crois que vous êtes aujourd'hui à 64% de notoriété assistée. Donc c'est un beau message, voilà, pour ceux qui nous écoutent, étudiants comme marketeurs, et vous allez connaître le secret du nom Bleu Blanc Cœur maintenant, chère Nathalie, dis-nous.
Donc effectivement, Bleu Blanc Cœur, c'est un nom qui a été créé sur un bout de table au moment où le projet se lançait. Il y avait une petite concertation en interne, des pionniers de la démarche. Et le bleu, c'était pour la couleur de la fleur de lin, qui était un peu cet emblème de la démarche. Le blanc, c'était pour illustrer la transparence, c'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Les filières courtes, la traçabilité. Et le cœur, c'était pour le bénéfice santé humaine. Et donc du coup c'est comme ça que s'est créée cette démarche bleu blanc cœur, qui est effectivement un nom pas forcément évident ou immédiatement parlant pour un consommateur, donc ça peut être un frein comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc à une période on s'est aussi posé la question de savoir si on gagnerait pas en notoriété puis en compréhension si notre nom était un petit peu plus évident en termes de compréhension immédiate. Et puis au final il y a un attachement tellement fort à cette démarche de ces pionniers, des valeurs qu'elle porte, et qu'on a décidé de garder le terme bleu blanc cœur et même de le mettre au cœur de notre logo, parce qu'au début il était juste en signature et c'est devenu la promesse de la démarche, la promesse de marque. Mmh. Et bleu blanc cœur, c'est aujourd'hui un parcours, beaucoup d'engagement, beaucoup de valeurs, beaucoup de convictions, et in fine on y arrive parce qu'effectivement la notoriété progresse. Notre challenge, ça va être d'améliorer encore la compréhension et les valeurs associées à la démarche. C'est sûr que sur ces démarches dites de label, c'est plus compliqué que sur une mention valorisante qui immédiatement parle au consommateur. Mais on se dit qu'on est sur des temps longs dans l'agriculture, dans l'alimentation, on est sur des temps longs, et une démarche comme Bleu Blanc Cœur, elle l'est sur les temps longs, et elle est aussi décloisonnée. Donc effectivement, on n'adresse pas à un enjeu unique, on veut être une démarche globale et transversale, et Bleu Blanc Cœur, ça l'illustre bien.
Ce qui a retenu l'attention du comité de sélection, alors, c'est effectivement la démarche globale de Bleu Blanc Cœur, la constance de la démarche et la cohérence. Et surtout, on est vraiment sensible à ça avec le comité de sélection, la capacité à mesurer de manière objective le succès ou le résultat de ce qu'on met en place. Et vous avez travaillé vraiment de manière structurée sur cette dimension, pas uniquement avec des indicateurs consommateurs, mais d'abord, tu l'as évoqué tout à l'heure, avec des cas cliniques, avec la capacité effectivement à démontrer que l'utilisation de ces produits-là avait des effets sur la santé des sols, sur la santé des animaux et sur la santé des humains. Est-ce que tu pourrais nous redonner quelques chiffres clés? J'en ai noté un. Une vache nourrie avec de la graine de lin émet 20% de CO2 en moins qu'une vache nourrie de manière conventionnelle. Est-ce que c'est le bon chiffre? Est-ce que tu en as d'autres qui permettent d'illustrer de manière un peu factuelle comme ça, de toucher du doigt les bénéfices?
Je vais rebondir sur ton introduction pour dire qu'effectivement, dans l'ADN de Bleu Blanc Cœur, on a toujours piloté cette démarche de qualité autour de la recherche de la performance et d'indicateurs de résultats. Et c'est ça qui nous anime. On ne peut pas décréter de la qualité côté, c'est bien d'avoir une sorte de boussole mesurable. Alors, la boussole de chez Bleu Blanc Cœur, elle est nutritionnelle, mais elle emmène des performances environnementales, de santé animale, de performances agronomiques. Et la capacité à mesurer nos impacts, à la fois par des études cliniques, et si on a le temps tout à l'heure, on parlera de la dernière, mais ça ne... Ça amène tout le monde, ça amène le producteur qui a une boussole pour produire, ouais. qui a des performances, qui les lie et qui sait comment orienter son élevage par rapport à l'objectif. Et puis ça parle au consommateur parce que c'est un gage de traçabilité, de transparence. La qualité, elle se mesure et elle est distinctive d'un autre produit. Donc c'est vrai que c'est pertinent.
C'est un point important parce qu'on parle souvent d'obligation de moyens dans les cahiers des charges en général, dans l'agriculture, pour les marques. Et c'est chouette d'avoir des obligations de moyens, mais vous avez dépassé largement cette ambition en disant ce qui compte effectivement, c'est ce qu'on mesure à la fin. Est-ce que tu peux nous redétailler quelques exemples?
Bah oui, du coup, si on prend l'exemple de la vache dont tu parlais tout à l'heure, une vache bleu blanc cœur, c'est une vache qui va consommer de l'herbe ou l'hiver, voilà, un complément avec des graines de lin ou de colza. Enfin, et du coup, cette vache-là, elle va à la fois avoir une alimentation plus variée, diversifiée et durable. En termes d'impact environnemental, c'est 20% de carbone en moins. Mais c'est aussi un score unique, alors ce fameux score unique qui agrège 5 indicateurs, qui est mieux disant également. C'est une vache qui est en meilleure santé. En moyenne, chez les éleveurs bleu blanc cœur, on peut aller jusqu'à 3 litres de lait en plus. Parce que du coup, ce CO2 que la vache n'émet plus, c'est du gaspillage énergétique en moins. Ça veut dire que sa ration est plus équilibrée par rapport à ses besoins physiologiques. Donc elle va émettre un peu moins de méthane, qui est retraduit en équivalent CO2. Et ça va lui permettre de produire plus de lait. Donc, en fonction de l'éleveur, de la façon de conduire, jusqu'à 3 litres de lait de plus par jour. Et c'est aussi un lait de composition nutritionnelle améliorée. Donc, on va avoir 2 à 3 fois plus d'oméga-3, 20% d'acide palmitique, qui est un acide gras saturé, le principal en moins, des équilibres oméga-6, oméga-3 idéaux. Donc, on a effectivement, sur une matière grasse laitière qui fait 400 acides gras, on a 200 acides gras qui évoluent positivement. Donc, on a un effet positif de l'amont à l'aval de la filière. Et on a aussi des performances pour l'éleveur qui sont intéressants en termes de santé, fertilité, immunité, mieux nourrir les animaux, c'est aussi jouer sur leur santé et sur la qualité du produit.
Il y a un point, alors je ne sais pas si c'est systématique, mais tu en as parlé un peu tout à l'heure, l'introduction de la réintroduction de la graine de lin dans un assolement, ça permet de diversifier les cultures, d'avoir peut-être une meilleure couverture des sols et une meilleure biodiversité. Il me semble que vous avez aussi des indicateurs sur ce sujet. Ça montre vraiment la complexité et la richesse quand on se met à repenser un système, à quel point il peut produire différemment en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et là, on a à la fois la dimension technique que tu expliquais tout à l'heure, la maîtrise agronomique, et puis l'explication du résultat.
Exactement. On suit, grâce à ces obligations de résultat et ces indicateurs de performance, à l'échelle de Bleu Blanc Cœur. Alors, pour mémoire, Bleu Blanc Cœur, c'est 5 à 10% de part de production sur les filières d'élevage aujourd'hui en France. Et donc, du coup, une année de production Bleu Blanc Cœur, on sait déterminer les impacts en termes de nutrition et de santé, en termes d'environnement et puis en termes de diversité sur le territoire. Alors, en termes de diversité végétale, une année de production, c'est pas que le lin Bleu Blanc Cœur, donc du coup c'est aussi on interdit le palme, on limite ou on interdit le soja d'importation en fonction des filières, donc on a drastiquement réduit l'utilisation de ce soja d'importation pour valoriser des cultures locales de pois, de févrole, de lupin, donc de protéines locales au-delà du lin. Et donc c'est une année de production, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est 28 000 hectares de soja importés en moins qui rentrent pas en France et qui sont remplacés par 40 000 hectares de lin, de lupin, de luzerne, d'herbe, de févrole qu'on aura contribué au travers de nos obligations de moyens, pour le coup, des cahiers des charges à remettre en production. Ça, c'est l'impact diversité végétale et c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'agriculture régénératrice aujourd'hui. Mmh. Et ben, remettre plus de cultures, des assolements allongés, des rotations plus longues, et ben ça contribue aussi à la santé du sol, à la réduction des pesticides. Et puis, ça va aussi avoir un impact sur la décarbonation des élevages. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on doit tuer la moitié du troupeau français parce que les vaches sont réputées polluantes? Ou est-ce qu'on travaille les modes de production? Et c'est tout l'enjeu de Bleu Blanc Cœur parce que, comme je vous disais, une vache mieux nourrie, elle gaspille moins d'énergie, enfin, elle valorise plus son énergie, elle gaspille moins en réduisant ses émissions de méthane de 20%. Et donc, une année de production Bleu Blanc Cœur, c'est 130 000 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère. Alors, ça peut-être ça va peut-être pas parler, mais en équivalent kilomètres de voiture, qui est un indicateur qui parle à tout le monde, bah c'est quasiment 700 millions de kilomètres de voiture non parcourus, parce que voilà, nos vaches laitières ou nos poules, nos porcs, nos volailles bah, consomment moins de soja et consomment plus de protéines locales.
Alors, c'est un point hyper intéressant que tu viens de poser là. Je fais un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent. Tu parles finalement des externalités quand on mesure ces dispositifs. Elles peuvent être négatives ou positives. Et moi, ce qui me fascine toujours quand on commence à lever le capot de ce type de pratique, c'est qu'il y a une source d'innovation ou de changement de pratique qui est juste incroyable. Et c'est un encouragement que je veux faire à tous ceux qui nous écoutent pour dire que chaque décision, finalement, a des impacts qui peuvent être extraordinaires ou pourris, et se poser la question de mesurer l'intégralité de ces impacts, d'être capable de comprendre où se jouent les enjeux de la fourche à la fourchette, c'est parfois pas hyper facile, parce que l'accessibilité de la traçabilité, elle est parfois un peu longue, mais c'est une source extraordinaire de compréhension d'abord, et d'innovation derrière, et tu viens de démontrer qu'on pouvait finalement... Je vais simplifier en faisant pas grand-chose, c'est-à-dire en mettant un peu d'oméga 3 dans une ration de nourriture des animaux, changer énormément de choses sur, y compris participer à la diminution de la déforestation importée, ce qui est quand même un sujet législatif récent et qui est sur la table de l'agenda de toutes les entreprises aujourd'hui.
Oui. Si tu puis me permettre de rebondir par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est le pilotage de bonnes pratiques qui sont des fois des pratiques assez simples, voire simplistes, comme tu le dis. Du coup, on a un objectif et puis derrière, on jalonne en plan de progrès parce qu'on a un collectif. Ça aussi, je pense que c'est important de mettre autour de la table toutes les parties prenantes de la filière, les agriculteurs, les transformateurs, les consommateurs, les professionnels de la santé. C'est ça qui nous anime pour piloter, on va dire, cet objectif d'une alimentation dite santé unique ou One Health, là, qui agrège tous les enjeux. Mais, et aussi, notre spécificité, c'est de vouloir jamais raisonner les sujets par silos. En fait, aujourd'hui, on parle de décarbonation de l'élevage laitier. On ne va pas chercher l'enjeu de la décarbonation par des voies très efficaces ou immédiates s'il n'y a pas des impacts collatéraux positifs sur le lien au sol, si on ne privilégie pas la voie de la naturalité et que derrière, il n'y ait pas ce fameux bénéfice individuel consommateur. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui Bleu Blanc Cœur continue à exister après 20 ans d'existence, c'est peut-être aussi parce que voilà, on a construit une démarche de filière autour d'un bénéfice individuel santé. C'est vrai que je pense qu'il y a deux principaux éléments de disposition à payer chez le consommateur, tout en restant relativement accessible, c'est un de nos enjeux aussi.
Ouais.
Ça va être le goût du produit et puis un bénéfice individuel autour de la santé. Et pour nous, ce bénéfice individuel autour de la santé nous permet justement, plan de progrès, d'adresser des bénéfices collatéraux sur la santé des animaux, leur bien-être, sur la santé de l'environnement, sur l'ensemble des impacts de la filière.
Alors, un des points qui nous a intéressé aussi dans le comité de sélection, c'est que ce travail au long cours, vous l'avez mené pour des circuits GMS, donc hypermarché et supermarché conventionnel, mais vous avez aussi obtenu un certain nombre de succès dans la restauration. La semaine dernière, on recevait les équipes de Bell dans ce studio et ils nous disaient que c'était pour eux assez compliqué de pénétrer l'univers de la restauration, notamment sur des produits un peu mieux disants, et en l'occurrence, on les recevait pour leur offre bio sur Kiri, parce que justement, la disposition à payer dans la restauration est un peu plus compliquée. Vous avez un écart de prix probablement plus modeste que sur le bio, mais néanmoins, vous avez réussi aussi à embarquer des restaurateurs. Vous avez à la fois des restaurateurs de gastronomique et des restaurateurs de restauration collective dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui fait que vous réussissez à embarquer ces gens-là? Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent aussi, qui ont besoin d'aller travailler sur ces secteurs?
Alors, c'est vrai que l'aventure Bleu Blanc Cœur en restauration collective, déjà, elle est importante parce que ça fait partie de l'ADN de Bleu Blanc Cœur. Quand on parle restauration collective, on parle restauration des étudiants, des enfants.
Et
c'était un enjeu très important pour nous de se dire que les produits Bleu Blanc Cœur produits par les éleveurs de la filière rentrent dans les cantines scolaires. Et donc du coup, ça fait 10 ans en fait à peu près qu'on a lancé ce partenariat ou cette démarche. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le développement des produits Bleu Blanc Cœur. Donc effectivement, on est sur un positionnement, on va chercher un maximum d'impact pour un coût le plus modéré.
Donc un surcoût
modéré. Donc on va être sur des surcoûts de 5, 10%, allez 15% si on gère mal les chaînes logistiques, mais ça reste relativement accessible. Après, les chefs cuisiniers aiment bien les produits Bleu Blanc Cœur parce que quand ils les mettent en œuvre, alors ce sont des produits bruts très souvent, quand ils les mettent en œuvre, ils ont un produit plus qualitatif qui rend moins d'eau à la cuisson.
Donc ils ont un meilleur rendement potentiellement.
Ils ont des meilleurs rendements. Et donc
d'accord.
Du coup, souvent, ils nous disent qu'ils achètent plus cher, mais qu'au final, le coût repas servi est équivalent, parce que du coup, d'accord, ils ont moins de pertes en eau. Il y a aussi les enfants, et ça, c'est quelque chose qui nous plaît, et moins de retour poubelle. Produit gustativement apprécié par les enfants, il n'est pas jeté. Donc, il y a tout un bénéfice autour du gaspillage alimentaire qui est intéressant. D'accord. Et je dirais que cette logique de compteur d'impact... Alors, au-delà d'Egalim, où nous, on a beaucoup cravaché pour obtenir la reconnaissance Egalim, donc même sans cette reconnaissance Egalim, qu'on a obtenue là officiellement, on va dire, en début d'année 2024, y avait un intérêt sur la qualité des produits, il y avait un intérêt sur ces compteurs d'impact, où quand on est en restauration collective, on a besoin de parler aux convives, aux parents d'élèves, mais aussi à la municipalité, et d'expliquer en quoi la cuisine est aussi un acte de restauration responsable. Et donc, mesurer ces impacts avec les compteurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est un réel atout pour les chefs cuisiniers.
Alors, pour boucler avec une actualité forte du moment, tu parlais d'une valorisation entre 5 et 15% en fonction des produits. Comment cette valeur qui est créée auprès de l'utilisateur final, elle remonte jusqu'à l'éleveur, jusqu'à l'agriculteur? On parle beaucoup du revenu des agriculteurs aujourd'hui, c'est un sujet qui va être à l'agenda des prochaines semaines, et vous avez un retour d'expérience assez intéressant là-dessus aussi, ça a été vraiment... piloté aussi dans cet esprit, oui, de pouvoir partager la valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
L'initiative Bleu Blanc Cœur a vraiment été créée dans l'optique de créer de la valeur pour le producteur. Donc on l'a pas décrite depuis le début en se disant il faut qu'on crée le lien au consommateur, qu'on crée le bénéfice individuel et que il y retrouve un intérêt, qu'il ait un petit consentement à payer en plus. Après, moi je peux illustrer aujourd'hui, chez Bleu Blanc Cœur, on suit beaucoup d'indicateurs de pilotage, et on anime aussi beaucoup de commissions internes sur la filière laitière dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, la rémunération éleveur, avec ses bénéfices dont on parlait, en moyenne, c'est 30 euros du 1000 litres, donc 3 centimes du litre de lait qui est reversé au producteur. Il a un surcoût de 1,2 centimes, donc le reste, c'est un delta qui lui reste pour l'engagement dans la filière.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose de très clair dans la filière Bleu Blanc Cœur, sur les filières laitières. Sur les filières porc, il y a pareil, il y a des sujets, il y a des coûts de production et puis des incentives. Et donc, c'est vrai qu'on aimerait bien que cette incentive progresse encore. Elle est déjà existante et je pense qu'elle peut encore être meilleure. Et c'est notre challenge à nous d'augmenter la notoriété, de se battre sur un certain nombre de sujets filières, hein, et les équilibres matières dont on parlait tout à l'heure, ces chaînes logistiques, cette valorisation finale. Finalement, si on valorise plus la production, qu'on est dans une logique de massification et peut-être pas d'hypersegmentation, on coupe ces ruptures de charges qui font qu'on est en capacité de multiplier par 2, par 3 la rémunération éleveur. Et donc ça, c'est notre challenge actuel. Et c'est pour ça que la restauration collective, j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais la restauration collective, c'était aussi un débouché complémentaire pour les éleveurs. On peut avoir une partie de sa production qui part en grande distribution. Ça suffit peut-être pas. Il faut aussi trouver des débouchés pour les autres pièces.
Ça permet de valoriser d'autres morceaux, effectivement, et du coup, d'avoir un équilibre sur l'ensemble de la matière première produite. C'est hyper intéressant. Nathalie, tu parlais tout à l'heure d'une étude clinique récente qui démontre un certain nombre d'autres bénéfices. Est-ce que tu peux nous... c'est l'actualité du moment. Est-ce que tu peux nous la partager? Et est-ce que ça constitue ta plus grande fierté? Et si ce n'est pas le cas, laquelle est-elle pour finir cette première partie?
Alors, c'est clair que cette étude clinique qu'on vient de boucler avec le CHU de Rennes et l'INRA et l'INSERM, c'est notre fierté, je dirais. C'est la raison d'être de Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur s'appuie sur déjà 5 études cliniques publiées. Et celle-ci, elle était vraiment, je dirais, presque fondatrice de l'avenir de Bleu Blanc Cœur, parce que c'est une étude clinique qu'on a menée sur 80 femmes enceintes et allaitantes. Pour faire court, elles étaient suivies par le CHU de Rennes et il y avait la moitié d'entre elles qui ont reçu pendant le dernier trimestre de grossesse et après l'accouchement, une alimentation Bleu Blanc Cœur, et l'autre moitié avait les mêmes recommandations alimentaires, sauf que l'origine des produits était conventionnelle et non Bleu Blanc Cœur. Donc l'idée, c'était de regarder à régime constant, normal, si on pouvait moduler la composition du lait maternel parce qu'on avait changé les modes de production et d'alimentation des animaux. Et in fine, on vient de démontrer que les mamans Bleu Blanc Cœur ont un lait maternel qui contient 40% d'oméga-3 de plus que le lait des mamans conventionnelles. Donc elles ont exactement mangé la même chose, dans les mêmes quantités, dans les mêmes proportions, avec les mêmes recommandations nutritionnelles. C'est juste le régime de l'animal et l'origine de la filière qui a évolué. Donc c'est intéressant parce qu'on montre qu'on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce que l'animal a mangé. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans toutes les recommandations nutritionnelles, souvent, on demande aux consommateurs
de changer d'alimentation,
d'être le seul responsable de ses choix alimentaires. Pour le coup, il y a peut-être un binôme producteur-consommateur qui est vertueux. On n'est peut-être pas obligé de drastiquement modifier son alimentation. On peut aussi compter sur l'agriculteur et l'éleveur. Et je trouve qu'on reconnecte agriculture et société grâce à cette alimentation et à ce type d'études.
Ben, reclin d'œil à ceux qui nous écoutent, le très grand pouvoir que vous avez dans chaque décision que vous prenez. Les impacts sont, si vous allez jusqu'à la mesure telle qu'elle vient d'être expliquée, c'est assez fascinant. Et ça nous donne de l'énergie pour aller encore plus loin. Merci Nathalie pour cette partie. On rentre dans une seconde partie sur laquelle on va te demander, à l'aune de l'expérience bleu-blanc-cœur et puis ton ressenti, les conseils que tu aurais envie de donner aux entreprises qui nous écoutent et aux étudiants pour réussir une stratégie d'approvisionnement et de distribution plus responsable. Est-ce que, en une minute, tu peux nous donner les best practices que tu relèves ?
Sacrée question. Ben, je dirais que pour réussir justement à mettre en œuvre des projets tels que ceux-ci, je pense qu'il faut avoir une vision, beaucoup de conviction. Quand je parle de vision large et peut-être pas forcément trop, enfin, c'était un peu mon parcours. J'avais une approche technique et puis j'ai découvert le marketing. Des fois, on parle de science dure, de science molle. Je trouve que les deux vont ensemble et dans l'agriculture, le marketing, on le considère des fois un petit peu comme quelque chose de superflu. Et pour le coup, pour moi, c'est hyper important en fait d'associer à la fois une bonne connaissance scientifique et une bonne capacité à la faire savoir, à la faire connaître. Et je dirais que les visions en silo ou cloisonnées, elles sont pas propices à une réussite. Et je dirais qu'il faut prendre de la hauteur, élargir ses horizons, avoir une vision un peu holistique et complète, ne pas être bloqué, avoir vraiment cette vision globale. Je dirais que dans les best practices aussi, la force du collectif. Quand on s'ouvre aux autres, quand on accepte le dialogue, quand on partage, quand on met des éleveurs autour de la table avec des consommateurs, des professionnels, des métiers de bouche, toutes les parties prenantes, chacun vient avec sa vision, et c'est le partage des visions qui font déciloter les choses et qui font avancer les projets, parce qu'ensemble, on va plus vite et on va plus fort. Et après, bah, c'est vrai que je dirais que ça fait 23 ans ou 24 ans que je suis chez Bleu Blanc Cœur, c'est aussi, au-delà d'un projet professionnel, je pense qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et puis conviction, plaisir, satisfaction, c'est un des moteurs de réussite également.
C'est sûr qu'on va beaucoup plus loin quand on se lève le matin en se disant qu'on va faire bouger les choses, ça donne de l'énergie, je suis bien d'accord. Alors, autre petite question avant de donner la parole aux étudiants, tu es un observateur de la grande conso en général, est-ce que tu pourrais nous recommander une bonne pratique à surveiller pour 2024, une initiative qui te semble intéressante, remarquable, qui pourrait candidater cette année pour la plateforme et qu'on devrait regarder ?
Il y en a potentiellement plusieurs, c'est une bonne question, et c'est vrai que c'est bien toutes ces initiatives qui grouillent et qui font avancer les projets. On a parlé tout à l'heure de restauration collective, et du coup moi j'aime bien une démarche, alors qui est peut-être pas dans le prisme immédiat, mais qui s'appelle Mon Resto Responsable, qui est piloté par RestoCo, par VVF, il me semble. Et je trouve que c'est bien parce que c'est l'accompagnement à la valorisation de bonnes pratiques en restauration collective. Et j'aime bien cette démarche-là. Alors, je vais parler d'une autre démarche, c'est Campacity. C'est une démarche portée par un agriculteur aussi, qui fait le lien entre agriculture et société, qui reconnecte les villes avec les campagnes autour des sujets agricoles. Je trouve ça intéressant. Après, il y a des marques. Enaf avec son projet Be Good, Omi avec son projet de transparence, c'est inspirant, les deux vaches, nous anti-gaspi, parce que pour la logique du gaspillage alimentaire, c'est vrai qu'on sait que 40% de la production mondiale est gaspillée. Avant peut-être de rentrer dans les coulisses de chacune des fermes,
il y a
peut-être des optimisations énormes à imaginer. Et puis voilà quelques pratiques, mais il y en a plein, et plus il y en a, mieux ça inspire et plus ça nous challenge.
Merci infiniment Nathalie. On va passer aux questions maintenant des étudiants. J'ai le plaisir d'accueillir donc Antoine de Neoma et Ubaima de l'ISTEC Paris. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va commencer par Antoine qui est déjà au micro. Alors cher Antoine, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de Nathalie ? Est-ce que vous considérez que l'exercice de transparence a été réussie et pourquoi, et quelles questions, surtout, vous avez envie de lui poser pour enrichir cet entretien.
Alors déjà, je vais commencer par remercier Nathalie pour toutes ces précisions. Et pour répondre à la première partie de votre question, je dirais que on sent que Nathalie exerce une profession et un emploi de passionné, et on a l'impression que c'est depuis toujours. Donc je pense que c'est important aujourd'hui d'être, comme vous le disiez tout à l'heure, David, de se lever le matin pour être content de son travail et de ce qu'on fait au quotidien. Et pour un étudiant comme moi, ça fait plaisir d'entendre que c'est possible d'être content et de ne pas se lever uniquement pour faire du business. C'est ce que moi je remarque. Effectivement, j'avais une question à Nathalie. Vous parliez tout à l'heure, en tout début d'enregistrement, de la compréhension du consommateur dans le cadre de la création du nom Bleu Blanc Cœur et de la transparence que vous aviez avec le consommateur. Je me demandais en ce sens si dans les emballages, par exemple, il y a déjà beaucoup de logos, le Nutri-Score, la description et origine des produits. Est-ce que ajouter à nouveau une information supplémentaire pour vous, ce n'est pas trop ? Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un petit peu le consommateur dans sa compréhension du produit ?
Donc effectivement, c'est une évidence. On parle beaucoup de trop nombreux labels et de perdre le consommateur. En tout état de cause, je pense que Bleu Blanc Cœur, ce projet, il n'existait pas il y a 20 ans, et pour autant, il répondait à un enjeu nouveau, de se dire est-ce que les modes de production peuvent adresser la qualité nutritionnelle, la qualité environnementale de notre alimentation. Donc pour le véhiculer, on avait le choix d'utiliser les outils qui existaient à l'époque, mais qui n'étaient pas forcément ouvert à intégrer les enjeux qu'on portait. Donc pour le coup, l'idée a vraiment été de se dire, créons cette marque qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, qui n'avait peut-être pas vocation à l'époque quand le nom a été trouvé à devenir ce que c'est aujourd'hui. Mais je dirais que cette marque collective de qualité, elle a réussi à se positionner, à se développer, et puis à devenir, la première voie de différenciation au niveau des produits d'élevage. Donc c'est vrai que je me dis, j'ai une chef qui dit souvent, faut jamais être le meilleur, faut toujours être le premier. Et en l'occurrence, je pense que des démarches telles que les nôtres, elles doivent se reconsidérer, être toujours en mouvement, toujours en plan de progrès, se reconnecter aux attentes sociétales. Je dirais que les démarches qui existent, elles doivent continuer à progresser. Et effectivement, s'il y a eu une place pour la démarche Bleu Blanc Cœur, il y a eu une place pour ce logo et qui aujourd'hui s'est positionné. Et j'ai l'impression que c'est bien qu'on ait pu mettre ce logo sur les produits parce que ça répond à des attentes sociétales, ça répond à des attentes des agriculteurs. Et on a vocation à être une démarche. Alors, mon président dit souvent que si demain Bleu Blanc Cœur disparaît, à la limite, c'est pas grave parce que comme le sucre dans le café, on aura laissé du goût parce qu'on aura imposé la démarche. Donc vous voyez, on n'est peut-être pas complètement abouti sur ce sujet-là, mais c'est important quand même d'avoir un repère pour le consommateur, et la marque Bleu Blanc Cœur aujourd'hui l'est.
Excellent, merci Nathalie, merci Antoine. On va donner le micro à Oumaïma pour la seconde question de cet entretien. Bonjour Oumaïma.
Bonjour. Alors déjà, je tiens à te remercier Nathalie pour ta présence et pour toutes les explications que vous nous avez données, ça a été vraiment riche. Ma question serait, quelles stratégies sont envisagées pour augmenter l'engagement des consommateurs et agrandir la communauté de Bleu Blanc Cœur, en particulier parmi nous les jeunes, surtout.
C'est vrai que c'est un sujet important, je dirais que mes présidents fondateurs ont à cœur la transmission, la vulgarisation et l'information. C'est vrai que nous, on parle plus information, communication, et la cible des jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de notre ADN, notre raison d'être. On est parents, moi j'ai des enfants qui sont jeunes, et pour le coup, pour moi c'est important, c'est fait partie aussi de ma mission, de faire en sorte que les produits Bleu Blanc Cœur, que j'en suis convaincue, puis j'en maîtrise un peu les indicateurs, arrivent dans les cantines scolaires dans une logique de prévention santé. Je parlais de l'étude clinique lait maternelle, c'est aussi un outil de conviction, et donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces produits Bleu Blanc Cœur arrivent assez largement en restauration collective. Alors on est beaucoup en restauration scolaire, on a un partenariat fort avec les Crous, justement avec les étudiants. On a des chefs dans la communauté Bleu Blanc Cœur, comme Nicolas Caro dans le Finistère, qui fait des animations dans les Crous, donc un chef étoilé qui vient travailler les produits pour rendre accessible bien manger pour tous. Donc c'est un enjeu pour nous, et comme tu parlais communauté, Bleu Blanc Cœur, c'est une communauté au-delà de l'organisation structurelle avec les filières et les adhérents. On a aussi une communauté de 30 000 personnes aujourd'hui, donc qui sont principalement des consommateurs, 124 000, des professionnels de la santé, 104 000, des professionnels de métiers de bouche, ils sont 1 000, et puis des éleveurs qui ont des fois pas de débouchés Bleu Blanc Cœur, mais qui sont dans le mouvement et qui participent avec nous à faire grandir ce collectif. On a à cœur de le faire grandir avec une communauté de sportifs. Et là, je pense que sport et nutrition, chez les jeunes, il y a des enjeux. Au Salon de l'Agriculture, on a fait une table ronde avec des sportifs du monde professionnel, mais aussi des sportifs en club, pour dire que bah là, le bien manger pour tous, bah, c'est important pour le sportif de haut niveau, mais c'est aussi important pour le sportif, l'enfant qui va dans son club, parce qu'on a aussi un enjeu de vulgarisation du bien manger. Et pour le coup, la communauté des professionnels de la santé est intéressante, parce qu'on met en connexion les sportifs avec les professionnels de la santé. Et ça fait partie de nos enjeux. Et puis, Salon de l'Agriculture, parce qu'on a fait pas mal d'actions avec des enfants, parce qu'on en a croisé pas mal. On s'est dit, mais on a cette communauté des enfants à imaginer, parce qu'ils sont transparents, inspirants, sans filtre, et pour le coup c'est très très intéressant de les accompagner. Puis on a un chef chez Bleu Blanc Cœur dans la communauté, hein, tous nos chefs sont bénévoles, mais Olivier Chaput, avec qui on a envie de mettre en place des animations dans les écoles. Quand on fait un menu Bleu Blanc Cœur en restauration le midi, des outils, des formations, faire venir des chefs pour expliquer le lien au producteur, comment on cuisine des produits bruts et comment on fonctionne sur le bien manger. Je dirais que c'est un des gros enjeux de la filière demain.
Eh bien, on va terminer là. Merci à vous pour ces questions et ces échanges. Merci à Nathalie pour s'être prêtée au jeu et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, à le partager, à le commenter et à très vite pour de nouveaux épisodes.
En toute transparence a été créé avec le soutien de l'ADEME, de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo, de l'école Audencia et de l'agence Pixelis.
So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante.
L'humour sauvera-t-il le monde ?
Spoiler, oui.
Et comment ?
La preuve en 25 pages et autant d'histoires. De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
Et c'est tout ? Juste de l'humour ?
Non, dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant.
Ou une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
So Good, en vente partout chez vos marchands de presse.